Aujourd'hui, des lectures dont on a déjà entendu un peu parler, dimanche, si je ne m'abuse. Il n'y avait peut-être pas tout ça, mais les Actes des Apôtres. Alors voilà, c'est tout de même assez impressionnant cette affaire-là, parce que après la joie de la résurrection, le début de la prédication arrive avec une certaine violence, les persécutions. Et là, on assiste donc à Paul qui se fait lapider. Ce n'est pas tout à fait une blague. On pense même qu'il est mort. Et en fait, bon, donc vous voyez, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui se... la première conséquence de ça, c'est quoi? Eh bien, le lendemain, on recommence. Barnabé part pour Derbé. Et on continue à annoncer la parole. Même pas mal. Pourtant, se faire lapider, ça devait être assez chaud quand même. Hein. Vous voyez, la seule conséquence que ça a, c'est on continue. Donc, regardez les verbes. Ils retournèrent, ils affermissaient le courage, ils exhortaient, ils ont prié et jeûné, et ils annoncent la parole. C'est très impressionnant de voir comment ça se passe. C'est très enseignant pour nous aussi. Ça nous informe d'abord de ne pas être étonné d'être rejeté, voire même d'être pris pour cible, voire même d'avoir des tentatives d'assassinat. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui pourrait peut-être nous poser des questions, c'est si notre parole était accueillie à bras ouverts par l'esprit du monde. Que voulez-vous que je dise? Bien sûr, ça peut être accueilli par des gens, et pour cause, là c'est le cas, mais il y en a qui n'ont pas aimé. On peut imaginer qu'ils sont sincères, hein. Ils pensent que c'est une hérésie, et si c'est une hérésie... à cette époque-là, on lapide chez les Juifs. Voilà. C'est assez impressionnant. Même si ça existe encore, ça n'existe plus chez les Juifs. Et on arrive à la fin. Je voudrais insister sur la fin du passage. Une fois arrivé, ayant réuni l'Église, c'est-à-dire tous les membres... ils sont en Syrie, là, à Antioche. Ils rapportèrent quoi? Pierre s'est fait lapider, on en a pris plein la figure. Rien du tout. C'est très impressionnant. Rien sur la lapidation, aucune vantardise. Ce qu'ils rapportent, c'est tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ça doit nous faire réfléchir, des choses comme ça. Parce que nous, la sardine, elle prend 50 cm au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Alors que là, il n'y a rien. Dans les paroles, il y avait juste un mot. Il faut bien passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu prends 3-4 pierres dans la figure, tout va bien, quoi. C'est intéressant qu'on le note. Hein, parce que des fois, ces passages, on n'a pas bien vu, on n'a pas lu. Voilà, je vous rappelle, encore une fois, l'ouverture des JO. Qui, parmi nous, a sauté en l'air en se disant « Yes, les béatitudes ». Si on vous persécute, qu'on dit du mal de vous, qu'on se moque de vous, sautez en l'air. Qui l'a fait? Vous voyez, si personne l'a fait, ça veut dire que personne n'a encore compris cette béatitude. Et c'est quand même très très grave. Parce qu'on la lit au moins tous les ans à la Toussaint. Hein. Bien. Donc, l'évangélisation, c'est tout ce qu'il rapporte aux autres. Et c'est tout ce qu'il rapporte en soi. Je vais faire un jeu de mots. Hein. Donc voilà. Alors évidemment, pour se réjouir de ça, Eh bien, ou plutôt, je vais le dire dans l'autre sens, si nous ne nous réjouissons pas d'être persécutés, je vais dire un truc dur, hein. Eh bien, si on ne se réjouit pas d'être persécutés, c'est peut-être qu'on n'est pas très libre encore. On n'est pas encore dans la liberté de Dieu. On ne vit pas encore dans la résurrection. C'est-à-dire qu'on a peur de perdre des choses. Fût-ce la santé, du reste. Et eux, ils sont heureux d'annoncer la parole de Dieu. Vous voyez, là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste un indicateur. Vous voyez, c'est le livre qu'on écrira un jour, là, je ne sais pas qui, du bon usage de ses péchés. Si j'y arrive pas, ça me donne une information. Le péché me donne une information de ma dépendance, de mon manque de liberté, de mon surménage, de que sais-je, ça dépend des péchés. Donc voilà déjà ce que nous raconte, c'est une lecture de ce passage des Actes, au moins on peut dire ça. Donc on arrive à l'évangile où la parole est aussi annoncée, vous allez voir. Vous allez voir que cette parole est annoncée, elle est annoncée par Jésus dans des circonstances très particulières. Donc dans le texte français, nous lisons « Je vous laisse la paix ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre laisser la paix et donner la paix? Est-ce que ça veut dire je vous fiche la paix? Alors, quand on regarde le latin, il n'y a pas écrit je vous laisse la paix. Dans le latin, il y a écrit relin quo, vobis pacem. Relin quere, ça a donné en français déréliction. Donc en vérité, alors le mot grec, aphiemi, ça veut dire pareil. Un dictionnaire grec-anglais, là, cancel, leave. Donc en fait, ce qui est écrit, c'est je vous abandonne la paix. Une interprétation que je vous propose, c'est que la paix que Jésus abandonne, c'est celle du monde. Ce qui est explicité par la phrase suivante, ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne ma paix. C'est-à-dire qu'il y a la paix des hommes, celle-là je vous l'abandonne, débrouillez-vous. Débrouillez-vous si vous voulez y travailler, c'est pas une paix, c'est une absence de guerre. C'est du compromis, c'est on ne se tire pas dessus jusqu'à ce que... Bon, moi c'est comme ça que je vois ça. C'est une interprétation. Et en revanche, il y a la paix de Jésus qu'il donne. Et ce n'est pas la même paix. C'est une plénitude. Paix, ça vient d'un verbe en hébreu qui veut dire remplir. La paix, comme dirait je ne sais plus qui là, c'est la remplitude. C'est le fait d'être rempli. On ne peut pas en mettre plus. Ouais. Donc voilà, je trouve que ça, c'est extrêmement important de comprendre ça d'abord, parce que précisément, ça fait un bel écho à la lecture des Actes des Apôtres. Vous vous ferez taper dessus, hein. Ça, je ne vais pas vous le faire croire. Par contre, ma paix, je vous la donne. Et la paix qui habitait les apôtres était tellement forte qu'en fait, tout ce qu'ils trouvaient à raconter, c'était les merveilles que Dieu faisait. Je pense que c'est une bonne explication. Alors ensuite, donc, y a pas mal de choses très difficiles dans ce passage. Hein. En Jean 14, en général, c'est pas trop simple. Hein. Bon, les deux chapitres d'après, c'est pas beaucoup mieux, mais... Que notre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, c'est-à-dire, oulala, qu'est-ce qu'on va prendre sur la figure? Vous savez, c'est un peu les messages apocalyptiques, là. Ou apocalyptique, néologisme. Les fins de temps, les machins, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que Jésus va revenir et que ça va être la fête, quoi. Vous voyez, il y a deux paix, quoi. Il y a la paix réelle, celle qui vient de Dieu, et puis il y a l'autre. Donc, ben, faut choisir, faut vous demander, là aussi, c'est une manière de se connaître, quelle est la paix à laquelle je travaille, laquelle j'attends. Parce que si vous n'attendez pas la paix de Dieu, vous ne pourrez jamais témoigner, hein. Vous aurez la trouille tout le temps. Enfin, je veux dire, on est dans un monde aujourd'hui où, déjà, quand vous ne dites pas ce qu'il faut, on vous accuse d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas, ou de ne pas avoir dit un truc. Le pape, hier, ou avant-hier, il évoque la famille devant les diplomates, là. Son discours aux diplomates, il évoque la famille qui est une toute petite cellule d'une union stable entre un homme et une femme. Bon, bah, il s'est fait mitrailler par les crétins de journalistes qui ont dit, ouais, il parle pas des homosexuels. Ouais, bah, c'est pas une famille. C'est pas une union stable. Et voilà. Enfin, je veux dire, vous voyez, les gens ne font plus de distinction entre la doctrine. C'est pas parce qu'on rappelle la doctrine qu'on méprise les gens. Il y a une grande confusion qui est faite là. Eh bien, ici, c'est un peu pareil, vous voyez. C'est pas parce que on se prend des cailloux qu'il faut arrêter. Alors ensuite, donc Jésus, donc cet évangile se poursuit. Le Père est plus grand que moi. Donc là, il y a quand même un truc à expliquer parce que ça a donné lieu à des hérésies, ça, hein. Faut quand même attention, hein. Oui, Jésus est pas Dieu. Voilà. En fait, il a été adopté, ce qu'on appelle l'adoptionnisme. Enfin bon, diverses hérésies intéressantes. Toujours se souvenir que les hérésies sont rarement faites par des crétins. Donc il y a quelque chose qui est vrai dans une hérésie. Mais c'est mal interprété, c'est mal compris. Donc là, Jésus dit ça depuis son humanité. Et évidemment, le Père est plus grand que lui en tant que qu'il est homme, Jésus. Alors, pas en tant qu'il est fils de Dieu, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc, en tant qu'il est vrai Dieu, le Père n'est pas plus grand. Il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. De toute façon, il ne risque pas d'y avoir un plus grand, un plus petit. Hein. Mais en tant qu'homme, bah, oui, bien sûr. Oui, Jésus nous dit, je vous dis ça pour que vous n'ayez pas la trouille, quoi. Et Jésus nous dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, c'est-à-dire que mon humanité, vous n'allez plus y avoir accès. Vous n'aurez plus accès qu'à ma divinité. Ce qui est vrai du point de vue de la parole, ce qui n'est pas vrai du point de vue de l'Eucharistie. On a toujours accès à Jésus. Et Jésus nous annonce que ça va barder, quoi, parce que le prince du monde, il va pas être très très content de ce qui va se passer. Quand il va réaliser qu'il a tout perdu, il va pas être content du tout. Et là, on a une finale assez intéressante. Le prince du monde, donc il s'agit du diable, hein, celui qui est irréconciliable. Hein. Je pense à un livre d'Anne Lécu, qui s'appelle Marcher vers l'innocence, je crois. Et vers la fin, ben, il y a une hérésie assez bouleversante, puisqu'elle écrit J'aime à penser que le tentateur du que Jésus passera son vêtement sur les épaules du tentateur du premier jardin. Oui, ben non. Le tentateur du premier jardin, il a fait son choix définitivement. Et il n'y a pas d'apocatastase, c'est-à-dire on se réconcilie à la fin, quoi, vous voyez. Ce serait monstrueux d'avoir un démon qui a essayé de détruire tous les hommes et à la fin on se tape sur l'épaule. Enfin, il y a quand même des trucs. Bon. Ceci dit, ça c'est une hérésie. Donc le prince du monde, c'est le diable, il est irréconciliable. Doctrine de l'Église, confère le catéchisme si vous avez besoin. Et Jésus dit, il n'a pas de prise sur moi. Et cette phrase est intéressante, mais il faut que le monde sache. C'est-à-dire que si Jésus se débine, le monde ne pourra pas savoir que Jésus aime son Père. Le monde va savoir que Jésus aime son Père parce que Jésus fait la joie de son Père jusqu'au bout. Ce qui permet à Jésus d'aller jusqu'à la mort, c'est la certitude de faire la joie de son Père bien-aimé. Et puis il y a évidemment la certitude de nous sauver tous. Pour Jésus, c'est une joie extraordinaire de savoir qu'il obtient le salut de l'humanité. moins ceux qui voudront pas, mais il l'a obtenu pour eux quand même. Donc, cela nous amène à la toute dernière phrase qui est très intéressante. J'aime le Père, je fais comme le Père me l'a commandé. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? Genre un évangile de dimanche où Jésus disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et hier, Jésus disait « Celui qui m'aime fait mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne fait pas mes commandements. » Vous voyez, nous avons une explicitation ici qui nous montre qu'en fait, quand Jésus dit « Celui qui m'aime fait mes commandements », ben Jésus dit ce qu'il fait lui-même, « J'aime le Père et je suis ses commandements. » Jésus ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est tout à fait intéressant. Donc voilà, vous voyez, c'est tout à fait important d'avoir ça à l'esprit. L'amour du Père. La véritable libération, la véritable résurrection pour nous. Nous sommes ressuscités à partir du moment où nous avons intégré la parole du psaume « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». La résurrection, c'est ça. Ce que disait Paul, vous savez, dans son discours, il disait « Il a ressuscité », d'ailleurs c'est écrit au psaume 2e. Il écrit quoi ?« Tu es ressuscité, tu es mon fils aujourd'hui ». Je ne parlerai pas de la résurrection. Ben si, la résurrection, c'est pour nous, en fait, c'est le moment où nous entrons dans cette filiation avec plus aucune ombre de doute. Nous sommes certains de l'amour du Père. Ça peut être un combat pour nous. Pour Jésus, c'était une certitude qui lui a permis d'aller jusqu'au bout en mourant pour nous. Nous, nous n'avons pas à mourir les uns pour les autres dans le sens où ce salut est déjà obtenu. Nous pouvons mourir les uns pour les autres et à ce moment-là, nous sommes réunis à l'unique sacrifice du Christ. Mais ce n'est pas, n'est pas une nécessité pour sauver les autres. C'est le Christ les a sauvés une fois pour toutes, c'est fait. Donc voilà, vous voyez les commandements. Le commandement de Jésus, eh bien, c'est le commandement qu'il a lui-même expérimenté de son Père. Donc, c'est l'amour. Et donc, pour nous, ce qui importe, ce n'est pas que nous soyons persuadés de notre misère de pécheur, mais que nous soyons persuadés de l'amour inconditionnel du Père. Certains auteurs écrivent, voilà, pour avoir une vraie prière, pour être vraiment humble, il faut avoir une conscience aiguë de sa misère, de ses compromis, de son péché. Et alors là, je suis très embêté parce que Jésus n'a pas eu cette conscience-là, vu qu'il n'a pas fait de péché, et Marie non plus. Et pourtant, ils étaient dans une joie parfaite. Donc, la vraie joie, la vraie humilité se prend en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et non pas dans le plus pauvre des pécheurs. Quand on veut vous comprendre ce que c'est. Voilà, bon, j'espère que ce n'est pas trop compliqué ce que j'essaie de dire. Eh bien donc, entrons dans cette invitation à l'amour du Père, à recevoir cet amour, à être sûr de cet amour, à pouvoir dire oui, j'ai fait l'expérience, je sais désormais que mon nom est gravé dans la main de mon Père. Et le jour où nous avons fait cette expérience, d'abord il faut en rendre grâce, et à ce moment-là, l'idée de transmettre le message, quelle que soit la manière dont il est reçu, quelles que soient les pierres qu'on reçoit, devient un besoin, on a besoin de transmettre la parole.